Mélange-toi. 93.8 Radio Zone. Le mercredi de 10h à midi. Avec nous en direct tous les mercredis matins, vous rencontrerez des femmes. Nous parlerons cinéma, théâtre, lecture, de quoi nourrir vos loisirs. Remue-ménage, des histoires à détraquer vos électroménagers. Notre coup d'œil sur les médias. Et le memento de toutes ou presque toutes les manifestations et activités intéressantes de la semaine. Ménage-toi, 93.8, une émission proposée par le Collège du Travail, réalisée par Marianne Erny, Alda de Géorgie et Catherine S.
Émission. Toutefois, notre émission aura encore un air de vacances, car tout d'abord nous parlerons tourisme dans le tiers-monde en compagnie de Dominique Malestra du groupe Tourisme et Développement. Il y aura aussi, comme d'habitude, notre memento, l'agenda des activités, nos informations. Ménage-toi du temps pour aller au spectacle. Aujourd'hui, nous parlerons cinéma, La flamme dans le cœur, un film d'Alain Tanner et de Myriam Mézières. Nous échangerons nos impressions avec Tina Mereyes. Et finalement, aujourd'hui, notre premier coup d'œil dans la presse. Le soleil, la détente, l'aventure, beaucoup d'entre nous vont la chercher dans les pays du tiers-monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion sur les vacances dans le tiers-monde. Une réflexion que nous allons partager avec Dominique Malestra du groupe Tourisme et Développement. Bonjour.
Bonjour.
Peut-être qu'avant de se lancer dans nos grandes réflexions, est-ce qu'on pourrait définir la notion de tourisme ?
Alors, je crois que quand on parle de tourisme et quand nous parlons de tourisme, on le définit d'une manière, de cette manière, c'est-à-dire qu'on estime que tourisme, ça veut dire le déplacement en groupe ou en individuel, dans un but qui n'est pas professionnel et dans une infrastructure qui est créée à cet effet. Il y a d'autres définitions, mais pour nous, on utilise celle-ci.
Donc, lorsqu'on décide de partir en vacances, plus que d'un jour dans un pays autre que le nôtre, nous faisons du tourisme.
C'est ça.
Mais quelle est l'origine de votre préoccupation à propos du tourisme ?
L'origine du groupe ou mon...
La vôtre, d'abord.
La mienne. Oh, ben, je faisais des études d'ethnologie, j'étais évidemment préoccupée par le problème du développement. Et puis, je connaissais des gens qui travaillaient sur cette thématique. Et puis, on a décidé de créer un groupe qui travaillerait sur le tourisme et le tiers-monde en Suisse romande. Et puis voilà, je me suis intégrée à ce groupe et on travaille comme ça depuis à peu près 5 ans.
Alors, comment s'organisent les voyages touristiques ?
Alors, les voyages touristiques, c'est vrai que le voyage, c'est un produit de consommation comme un autre et qu'on le fabrique en fonction d'un bénéfice qu'on peut faire avec. Donc les organisations, les fabricants de voyages ou tour opérateurs, comme on les appelle, vont fabriquer ces voyages, ces vacances. Les marchés sont structurés un peu différemment en fonction des pays. En Suisse, comme en Allemagne, on a une certaine concentration. Et en Suisse, on a 4 grandes entreprises qui fabriquent à peu près 70% des voyages et qui font 70% des ventes. Et c'est vrai qu'on assiste à une internationalisation de ces entreprises dans la mesure où il y a une concentration verticale et une concentration horizontale. Donc on décide d'une destination, on décide d'une infrastructure. On doit négocier ça avec les transporteurs, avec les hôteliers et des restaurants, etc., des transporteurs locaux. Alors, je ne sais pas si on peut donner un exemple de concentration...
Suisse, par exemple.
Verticale, Suisse. Par exemple, Swissair qui possède à 50,5% Kony, donc qui est la plus grande agence suisse, et qui contrôle également d'autres agences de voyage comme Jackie Meder ou Hellenic Tour. Et Kony dispose aussi de participation dans des agences et des hôtels qui sont basés dans le tiers-monde, par exemple au Kenya. Donc on retrouve Swissair dans les tours opérateurs, dans les chaînes d'hôtels, dans les restaurants, évidemment, dans le transport aérien.
Donc on peut très bien aller dans une agence de voyage Kony, s'inscrire pour un voyage. Et en fait, c'est à la base Swissair qui l'organise. Mais en tant que touriste, on est tout à fait ignorant de ce genre de choses.
Bon, c'est pas Swissair qui l'organise, c'est Swissair qui possède Kony à plus de 50%. C'est effectivement Kony qui organise. On assiste également à une concentration horizontale, c'est-à-dire un regroupement d'agences de voyage. Bon, une classique, c'est TUI en Allemagne, qui regroupe la grande majorité des fabricants de voyages allemands et qui ont des villages entiers dans le tiers-monde. Enfin, c'est une très très grosse agence.
Mais qu'est-ce qui motive en général le touriste à entreprendre de tels voyages ?
Oh, je pense que des voyages dans le tiers-monde, certainement le changement, certainement les plages, le repos, pouvoir partir en hiver et trouver du soleil, et puis également aller loin, l'aventure, comme on dit, entre guillemets. C'est aussi une image qu'on peut se donner aux autres, c'est-à-dire moi je pars au Kenya et moi je pars aux Seychelles. Je crois qu'il y a un peu ce mélange de genre.
Et non, vous n'êtes pas sur une plage à Hawaï en train d'écouter Radio Cocotier, mais vous êtes bien à l'écoute de Ménage-toi, Radio Zone 93.8. Nous parlons tourisme, et précisément tourisme dans le tiers-monde. La question qui nous préoccupe, c'est de voir la corrélation qu'il y a entre le tourisme dans le tiers-monde et aussi le développement des pays du tiers-monde. Car on a dit, et ceci je crois beaucoup dans les années 60, que le tourisme serait un facteur de développement pour les pays du tiers-monde. C'est exact ?
Oui, oui. Alors dans les années 60, effectivement, c'était la solution miracle pour ces pays-là qui n'avaient pas d'autres matières premières, finalement, que leurs plages et leurs cocotiers, etc., etc. Alors bon, on a vite déchanté. On s'est rendu compte qu'au contraire, ça favorisait l'endettement, ça favorisait les différences entre les classes sociales. Ça enrichissait les riches et ça appauvrissait les pauvres. Et ça augmentait la dépendance envers les pays du Nord de la part des pays du tiers-monde.
Mais pourtant, on dit que le tourisme crée des emplois et amène également des devises.
Alors effectivement, ça crée des emplois, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une main-d'œuvre non qualifiée, en général subalterne, que l'on trouve dans les régions où il y a les implantations touristiques. C'est vrai que l'encadrement moyen et supérieur est presque essentiellement européen. Donc ça veut dire que les gens du pays se retrouvent à ces postes où il n'y a pas vraiment d'avenir. Ce sont des postes saisonniers. Ce sont des postes aussi qui, malgré leur faible responsabilisation, permet de gagner assez d'argent pour, par exemple, nourrir une famille. Mais ça veut dire que les campagnes sont complètement vidées. Où il y a une implantation touristique, bon, ben les campagnes en général se vident parce qu'on va travailler dans ces implantations touristiques. Et là, on voit le problème que ça signifie par rapport au développement global d'un pays. Et ça, c'est pas la bonne manière de le faire. Parce que les implantations touristiques, c'est aussi quelque chose qui est éphémère. Si un fabricant décide de ne plus utiliser une destination, eh bien, il la coupe et il n'y a plus de travail. Donc, c'est pas ces emplois-là qui vont sortir le pays d'un mal développement. Et puis, les devises, eh bien, c'est vrai qu'il y a des devises qui entrent dans les pays. Bon, quand on achète un voyage, près de 90% du prix revient aux fabricants, donc reste dans les circuits européens. Et les devises qui restent dans les pays, il faut savoir que ce sont des pays qui, en général, ont des disparités sociales assez importantes. Et c'est clair que ça reste dans les élites locales qui ont plus ou moins favorisé un tel développement touristique et que, en général, les gens pauvres reçoivent les miettes de cet argent et sans plus. Donc, ce n'est pas les devises du tourisme qui pourront éviter l'endettement des pays. Au contraire, puisque eux-mêmes, pour créer des implantations touristiques, c'est-à-dire l'infrastructure touristique, parce qu'en général, ce sont les pays hôtes qui sont en charge, ce sont eux qui s'endettent parce que les matières premières viennent d'Europe ou d'Amérique, la main-d'œuvre, le know-how, etc. Donc il y a un endettement par rapport à cette infrastructure et qu'on ne peut pas récupérer avec les devises qui restent, les maigres devises qui restent dans le pays même.
Mais pourtant, une infrastructure se développe, est-ce qu'elle n'amène pas certains avantages pour le pays ? Je pense à un aéroport, je pense à un développement de routes.
En général, non. Ça peut amener un avantage de nouveau pour certaines élites, mais pour le pays en général, non, pas du tout. De nouveau, c'est un endettement. En plus, par exemple, si on crée une implantation touristique, il faut de l'eau potable. Alors bon, en général, ce sont des pays où il n'y a pas tellement d'eau potable. Alors bon, il y a des situations scandaleuses du genre où on remplit des énormes piscines et d'eau et que les gens n'ont pas d'eau dans leur maison. L'électricité, la même chose. Et les gens n'ont pas forcément besoin d'un aéroport tout de suite. Donc les priorités sont différentes. Donc en général, l'infrastructure n'aide pas vraiment les gens qui sont dans ces régions-là.
et développement, vous aussi, vous êtes peut-être parti en vacances, vous avez l'intention de le faire, vous vous posez des questions sur cette problématique. Alors n'hésitez pas à nous appeler, Ménage-toi, 023 50 40 51 41 et partagez notre réflexion. On parlait emploi dans le tiers-monde, emploi suscité par le tourisme, il est un des emplois qui marche le mieux, c'est celui de la prostitution.
Oui, alors effectivement, c'est la prostitution, c'est quelque chose qui s'est très fortement développé dans pratiquement tous les pays qui accueillent des touristes. Il y a une région qui est très touchée par ce scandale finalement, c'est l'Asie du Sud-Est avec les Philippines et la Thaïlande, également Sri Lanka, l'Indonésie, etc. C'est vrai que par rapport à tous les problèmes que pose le tourisme, je veux dire, il y a certaines choses qu'il faut négocier, on n'en est plus au niveau de la dénonciation. Je crois par contre que par rapport à la prostitution, c'est vraiment quelque chose de scandaleux qui prend de telles ampleurs qu'on peut pas en parler autrement.
Et la prostitution, ça ne concerne pas que les autres, car il y a de nombreux tours de contemporains ou bien encore d'assemblées d'associations de jeunesse qui ont comme sortie annuelle un petit voyage en Thaïlande.
Oui, tout à fait. Alors justement, la Thaïlande ou les Philippines, bon, quand on lit les chiffres, on est absolument atterré. On se rend compte que les petites filles et les petits garçons sont en général achetés à partir de 8 ans, de l'âge de 8 ans. Et bon, après, à 15, 16, 18 ou 20 ans, ils sont hors du marché. Et alors effectivement, ici, il y a des gens, passablement de groupes, qui partent en Thaïlande et aux Philippines pour cette raison-là, pour faire du tourisme sexuel. C'est quelque chose de banalisé. Et en plus, on a même une image des femmes thaïes aux Philippines qui sont très aimables, très gentilles, qui finalement, dans la mesure où on n'est pas dans la même culture que chez nous, c'est pas la même chose, etc. Mais de nouveau, quand on connaît la situation de ces pays, quand on sait par exemple qu'à Bangkok, 10% de la population féminine est prostituée, bon, ben, y a quand même des choses à dénoncer. Et ça va à l'encontre de tout développement d'un pays. C'est des jeunes qui sont après complètement largués quand ils sont plus intéressants pour leurs souteneurs qui gagnent énormément d'argent avec ces métiers-là. C'est lié très fortement avec des gouvernants du temps des Marcos, ils étaient vraiment très très impliqués là-dedans. Et alors on voit ces gens qui partent là-bas, entre autres pour les filles. Et quand on discute avec eux, ils nous en parlent très très normalement, très banalement. Ah oui, on est allé dans telle ou telle région, dans telle ou telle ville où effectivement il y a que des bordels. Et puis ils nous racontent leurs histoires, leurs aventures. Et voilà.
Oui, donc, mais je crois que la prostitution était entre autres à l'origine de la réflexion sur le tourisme dans le tiers-monde.
Oui, alors les groupes qui ont commencé cette réflexion dans le tiers-monde, ce sont des groupes qui sont liés aux églises en Asie du Sud-Est. Et la situation est telle, effectivement, qu'il y a eu une pression de la part de ces gens pour dire « mais il faut quand même dénoncer cette situation ». Et petit à petit, cette réflexion s'est généralisée à une réflexion sur le tourisme en général. Effectivement, c'est l'origine de la réflexion sur le tourisme dans le tiers-monde.
Mais est-ce que l'on peut dresser une liste des dommages créés par le tourisme dans le tiers-monde ?
Oui, on peut parler de la prostitution comme on l'a fait. Il y a l'environnement qui peut être touché gravement. L'environnement, il peut y avoir une double approche. C'est-à-dire que c'est soit des dommages très graves, par exemple la pollution qui est due aux implantations touristiques, le bétonnage des côtes. Également, à force de prendre de l'eau, on arrive à dessécher des régions entières. C'est vrai par contre que dans la mesure, si l'environnement peut être un facteur de vente touristique, on va le conserver. C'est le cas du Kenya où on a pu garder des tas de réserves naturelles parce que c'est un argument de vente pour les voyages au Kenya. Et il y a aussi le gros problème des, de la préservation des espèces animales. Je pense à l'ivoire, aux carapaces de tortue. C'est vrai que ce n'est pas le touriste qui va se ramener une défense d'éléphant entière, mais par contre, des milliers de touristes qui ramènent des petits bijoux en ivoire, ça peut provenir de l'ivoire de contrebande et poser des problèmes d'environnement.
Toujours à l'écoute de Ménage-toi sur Radio Zone 93.8. On parle tourisme. Peut-être qu'on est en train de vous déprimer si vous avez un sujet de vacances, car en effet, pour le moment, les constatations qu'on fait sur le tourisme dans le tiers-monde ne sont pas très réjouissantes. Mais enfin, rassurez-vous, on va trouver des solutions. Si vous avez besoin de destination de voyage, n'hésitez pas à nous appeler. Il en existe encore. Toutefois, nous continuons et nous allons parler d'un tourisme qui se dit alternatif. En général, c'est des tourismes, enfin des voyages à thème, comme on dit, avec des guides qui ont des connaissances sur la région visitée. On fait du trekking, on y fait du trekking. Et nous avons demandé à Françoise, qui a participé à cet été à ce genre de voyage, pourquoi elle avait choisi cette démarche.
Un temps de vacances qui est limité, qui ne nous permet pas de se trouver sur place en face de difficultés de transport, de visite, d'organisation, ce que le voyage organisé amène
plus facilement,
effectivement.
Premier critère, donc une question de temps. Et puis ensuite, comment tu as choisi tes destinations ?
Les destinations sont toujours des coups de cœur. Parce que j'ai des rêves. Je rêve de certains pays, de visiter certains pays. Et très souvent, j'ai réalisé ces rêves à l'aide de voyages organisés ou de...
Parce que, quelle est par exemple la dernière destination que tu as choisie?
Mais je suis allée au Tibet.
Alors au Tibet, comment ça s'est passé? Vous avez rencontré des gens une fois sur place?
Nous sommes partis d'ici et j'ai choisi ce voyage organisé parce qu'en ce moment, il est très difficile de pénétrer au Tibet d'une autre manière et de pouvoir faire des trekking en particulier d'une manière personnelle. Il est impossible de voyager dans ce pays en étant seul dans une période de temps déterminée.
Alors bon, une fois sur place, donc vous avez votre itinéraire qui est prévu?
Oui, avec certains aménagements qui sont laissés à l'imprévu également.
Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme imprévu cet été?
Alors le premier imprévu était que la route que nous avions prévue de prendre n'existait plus, ceci en rapport avec la mousson qui était arrivée d'une manière assez violente. Alors les premiers jours se sont transformés au lieu de bus et de cars, les premiers jours se sont transformés en trekking dans des petits villages au nord du Népal, juste avant de pénétrer dans le Tibet.
Et puis est-ce que vous avez eu des contacts avec des Tibétains?
Ah, tout à fait. Les contacts étaient assez nombreux et très intéressants. Contacts de deux types. Ceux que nous rencontrions sur les chemins avec qui on ne peut communiquer qu'avec les gestes et le peu de mots que nous apprenons ou que nous devinons. Et contact avec certains Tibétains qui pratiquent, qui parlent anglais ou qui parlent une autre langue que nous connaissons.
Vous étiez combien dans votre groupe?
Nous étions 9.
C'est pas un peu difficile quand on arrive à 9 personnes de pouvoir justement rentrer en contact? On n'effraie pas un peu les gens?
Alors, toutes les personnes du groupe n'ont pas les mêmes intérêts et n'ont pas forcément envie d'avoir un contact avec... les gens que nous avons, que nous rencontrons sur le bord du chemin. Certains sont plus intéressés par se désaltérer, rentrer en contact avec les personnes qui tiennent le bar, la chaikana du bord du chemin. Et d'autres sont plus intéressés par les gens qui sont dans les champs ou... peut-être les enfants qui jouent dans la rue.
Donc ça n'a pas été un handicap?
Pas du tout. Nous ne sommes pas un troupeau de 9 personnes qui nous déplaçons ensemble, la main dans la main.
Est-ce que tu pourrais faire une brève liste des avantages d'un tel voyage et puis peut-être des lacunes? Avantage, tu m'as dit, organisation, ça permet donc d'arriver sur place et de tout de suite pouvoir entreprendre son voyage. Il y en a d'autres?
Oui, certainement. Celui de, si on n'a pas le temps de préparer un tel voyage auparavant, d'être initié au pays et aux coutumes par quelqu'un qui le connaît bien, en ce sens le guide, soit le guide local, soit le guide de l'agence de tourisme, et pouvoir voir des tas de choses très intéressantes dans le pays et rencontrer également des gens qui sont disposés à accueillir le touriste qui passe.
Et puis des lacunes peut-être?
Des lacunes, probablement. Certains problèmes sont ceux d'une vie de groupe avec des gens que l'on n'a pas forcément choisi et... qui s'avère peut-être mal supporter le voyage ou bien ne pas avoir prévu que le pays est très froid et être parti avec quelques t-shirts ne pas supporter la vie de groupe ou avoir des attentes qui ne sont pas satisfaites.
Et par rapport aux pays visités ou bien aux gens rencontrés, là, tu...
Non, je trouve qu'on attend certaines choses, mais de toute façon, on découvre beaucoup sur place. Et il faut avoir du plaisir de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qui se présente, et non pas avoir des... se fixer sur des demandes non satisfaites. Il faut savoir profiter du temps de ce qui s'offre à nous.
Il s'agissait là donc d'un témoignage à propos de ce tourisme alternatif. Alors, qu'est-ce qu'il en est ?
Bah, qu'est-ce qu'il en est ? C'est qu'il est, il est pas très très alternatif. On se rend compte qu'en fait, ça change pas grand-chose du tourisme de masse classique, si ce n'est qu'il y a des plus petits